Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Mathieu Gallard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos. Cette question ce soir, François Bayrou et ses ministres passeront-ils la semaine qui commence ? Pour faire passer son budget à l'Assemblée, le chef du gouvernement annonce dans les colonnes du journal La Tribune dimanche qu'il engagera la responsabilité de son gouvernement en recourant à l'article 49.3 de la Constitution. Son texte sera alors adopté sans vote des députés, mais ceux-là pourront ensuite déposer une motion de censure. Alors, qui pourra la voter ? C'est l'autre grande question. Réponse de Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Il était sur Europe 1 ce matin.
La question est de savoir, effectivement, si le groupe socialiste, cette fois-ci, mais aussi le groupe du Rassemblement national, cette fois-ci, vont vouloir censurer le gouvernement. Je ne dis pas que j'en ai l'assurance, ce serait un peu présomptueux de ma part. Je dis que je crois qu'ils ne le censureront pas.
Si le Bloc central votera contre, à gauche, la France insoumise, les écologistes et les communistes voteront pour la censure. Et le PS dans tout cela ? Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, qui ne s'engage pas vraiment.
La censure est une option qui doit se réfléchir très sérieusement. Mais elle doit s'arbitrer aussi avec les nécessités économiques, sociales du pays.
Comme le PS, le RN tient la survie du gouvernement dans sa main. Le parti n'a pas encore décidé ce qu'il votera dans les jours qui viennent. Mais ce midi, sur France 3, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, disait ceci.
Je pense effectivement que nous devons nous associer à une motion de censure, mais c'est mon analyse personnelle. Est-ce que mes collègues Marine Le Pen et Jordan Bardella estimeront que l'intérêt de la France, c'est aussi d'avoir un budget malgré les défauts énormes? C'est eux, souverainement, qui
décideront. Et il n'y aura qu'une seule ligne au RN.
Ce qui est sûr, c'est que LFI votera la censure. Sur BFM TV, Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône.
Ce budget est le pire budget que le pays n'ait jamais connu depuis 25 ans, le budget le plus austéritaire, et qui va se traduire par des conséquences qui vont être désastreuses pour le pouvoir d'achat des Français, pour l'économie du pays de manière générale, pour nos services publics, et que ce budget, on doit s'y opposer. C'est la raison pour laquelle nous déposerons cette motion de censure.
Alors les députés doivent examiner demain après-midi les conclusions de la commission mixte paritaire sur le budget de l'État, ce qui sera l'occasion d'un premier 49-3. Ils passeront ensuite à l'examen en nouvelle lecture du budget de la sécurité sociale, théoriquement jusqu'à vendredi, occasion d'un deuxième 49-3. Alors François Bayrou joue-t-il sur la corde sensible, car les arguments sont les siens. La France doit avoir enfin les budgets indispensables à la vie de la nation. Il prend les Français à témoin. Alors vous qui sondez les Français pour Ipsos, Mathieu Gallard, est-ce qu'il a raison de le faire ? Est-ce que les Français en ont marre de l'instabilité politique et sont prêts à tous les compromis, à accepter un 49-3 ?
Il n'y a pas une réponse simple à cette question en fait. Et ce qu'on voit, c'est que les Français, ils sont assez ambivalents. D'un côté, c'est vrai qu'il y a une demande de stabilité parce que l'opinion publique, les Français, se rendent bien compte que la situation du pays est difficile sur le plan budgétaire, mais aussi sur d'autres aspects, que ce soit la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration, la question de l'environnement, etc. Il y a de nombreux défis à prendre en compte pour un gouvernement et évidemment, pour qu'un gouvernement les prenne en compte, il faut qu'il soit capable de durer et donc il y a ce besoin de stabilité. Mais en même temps, on voit aussi dans les enquêtes d'opinion qu'il y a une très forte impopularité d'Emmanuel Macron, mais aussi de François Bayrou, de ce gouvernement qui, il faut le rappeler, s'appuie à la fois sur la Macronie et sur les LR qui, aux élections législatives, ont obtenu tous ensemble un quart des suffrages. Donc ça fait de toute façon un socle électoral très limité. Et donc effectivement, il y a cette ambivalence. Aujourd'hui, on a quand même l'impression dans les enquêtes qu'il n'y a pas une envie forte, comme il pouvait y en avoir en décembre dernier, d'une motion de censure. Mais en revanche, par exemple, quand vous posez des questions sur est-ce qu'il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale, les Français y sont très favorables. Donc voilà, les choses sont compliquées. Il n'y a pas une réponse simple. Mais c'est vrai que là, on voit bien que François Bayrou met en avant cet argument de la stabilité en se disant qu'il peut quand même résonner dans une partie de l'opinion.
Et pour obtenir le vote de son budget, François Bayrou a fait des concessions hein, au Parti Socialiste. Ce qui va se passer intéresse donc également sur le sort de l'alliance de la gauche. Dans le cas où le PS ne voterait pas la censure, comme le fera le reste de la gauche, se posera donc la question de son appartenance à la coalition du Nouveau Front Populaire. Écoutez justement Manuel Bompard de LFI à nous.
S'ils ne votent pas à la motion de censure, alors ils auront procédé à un changement d'alliance, c'est-à-dire qu'ils seront dans la forme, dans un soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou. Et à partir de ce moment-là, ils auront, de mon point de vue, renié les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs.
Et donc, pour vous, ils ne seront plus dans le Nouveau Front Populaire.
Le Nouveau Front Populaire ne peut pas regrouper au sein d'une même coalition des gens qui sont dans le soutien au gouvernement et des gens qui sont dans l'opposition au gouvernement. Donc, évidemment qu'à partir de ce moment-là, parce que je crois savoir que outre les députés insoumis, les députés écologistes, les députés communistes, en tout cas dans leur grande et leur immense majorité, voteront la motion de censure, alors oui, mathématiquement, on peut le dire, les députés socialistes se seront mis à distance du Nouveau Front Populaire.
Dites alors mathématiquement, dit-il Mathieu Gallard, mais politiquement, il faut donc s'attendre à un bing-bang à gauche.
C'est compliqué, vous savez, depuis 2022, on annonce en permanence la fin de la NUPES, puis la fin du NFP, parce qu'effectivement, les relations entre ces différentes composantes sont notoirement complexes. Est-ce que, effectivement, si le Parti Socialiste ne vote pas de motion de censure, ça veut dire qu'automatiquement, le Nouveau Front Populaire explose? C'est une possibilité. Est-ce que c'est certain? J'en suis pas sûr. En fait, on voit très bien. Déjà, il y a tout simplement la dimension purement électorale. Ces différents partis, ils ont besoin les uns des autres pour obtenir des bons scores et pour obtenir un nombre de députés substantiel en cas de dissolution à partir de cet été, ce qui est toujours possible. Et donc, c'est vrai qu'ils ont ce besoin électoral. Et puis, ils l'ont tous bien compris. On a vu là au cours de cette semaine, je ne sais plus quel jour c'était, mais il y a eu cette grande réunion entre Marine Tondelier, Lucie Castet, je crois que c'était à Pantin, et plusieurs dirigeants écologistes, socialistes, communistes, mais même insoumis. On voyait que chez beaucoup d'entre eux, il y avait quand même l'envie effectivement que ça dure, que même si les socialistes avaient pris cette décision, on n'était pas d'accord, mais on pouvait la comprendre s'ils obtenaient des concessions. Donc il y aura aussi des tensions entre les insoumis et leurs partenaires écologistes et communistes si les insoumis déclarent unilatéralement la fin du NFP. Donc voilà, je ne sais évidemment pas ce qui va se passer, mais ça va être très intéressant à suivre dans les jours qui viennent.
En tout cas, on voit que François Bayrou a fait des concessions au Parti Socialiste, comme Michel Barnier en avait fait au Rassemblement National. Ces concessions de tous ordres ne semblent pas permettre d'élargir le cercle politique autour du Premier ministre et son budget, quel qu'il soit.
Écoutez, ça n'avait pas fonctionné effectivement pour Michel Barnier. Là, pour François Bayrou, on va voir. On ne connaît pas encore la décision du parti socialiste. Donc, on va effectivement voir quelle est la décision qu'il prend pour être fixé. C'est vrai que la grande difficulté dans laquelle est François Bayrou, mais Michel Barnier était aussi dans cette difficulté, c'est qu'il faut qu'il élargisse sa coalition, on va dire, vers le centre-gauche, donc vers les socialistes, en leur faisant des concessions. Mais il ne peut pas leur faire des concessions trop importantes parce que l'aile droite de la Macronie et les LR ne veulent pas faire de concessions en matière sociale, en matière de taxation plus forte des profits, des grandes entreprises, des plus aisés, qui soient trop fortes. Donc quoi qu'il en soit, c'est effectivement très difficile. C'est vrai que pour les socialistes, ils ont absolument besoin, s'ils ne votent pas la motion de censure, de pouvoir dire à leur électorat « on a obtenu des choses très substantiel. Est-ce que c'est le cas à leurs yeux? Ça, je ne sais pas, on va voir, mais c'est évidemment ce dont ils sont en train de discuter actuellement.
Alors, quand le 49-3 sera engagé, quand la motion de censure sera mise au vote, ce sera sous l'autorité de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle disait ceci tout à l'heure sur LCI.
J'ai jamais été de ceux qui critiquaient le 49-3, considérant que c'était un outil qui permettait de faire face quand nous n'avions pas de majorité, ou alors de faire face quand il y avait de l'obstruction parlementaire. Et c'est un outil constitutionnel. Et maintenant, moi j'invite le gouvernement, le Premier ministre, à dialoguer au maximum pour construire des compromis, parce que on ne peut pas gouverner contre l'Assemblée nationale.
Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos, cet outil constitutionnel qu'est l'article 49-3 est-il compris par les Français ?
C'est la grande difficulté. C'est certain qu'effectivement, cet article, il est dans la Constitution, il est parfaitement légal. Mais en revanche, aux yeux d'une partie grandissante et désormais nettement majoritaire de l'opinion publique, il a perdu en légitimité. Et ça, c'est vrai depuis 2022, globalement. On se souvient notamment de ce moment fondateur de la réforme des retraites qui est passé grâce à cet article 49.3. Et ça, ça a vraiment suscité un rejet très fort dans l'opinion publique. Il y a le sentiment, finalement, que c'est un article de la Constitution qui permet à un gouvernement de faire adopter des lois sans avoir besoin de l'aval de l'Assemblée nationale. C'est un peu plus subtil que ça dans la réalité, mais effectivement, ça donne le sentiment d'avoir un outil qui est quelque part antidémocratique, et donc, évidemment, ça suscite ce rejet très fort. Donc c'est vrai que là, on est dans une situation d'absence de majorité absolue et de gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale depuis 2022 et nettement plus depuis 2024, et donc de gouvernements qui sont obligés de s'appuyer sur cet article, ce qui renforce finalement la fracture entre les politiques, la politique telle qu'elle est menée, et les Français.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Revenons maintenant sur ce qui suscite encore des réactions aujourd'hui. Le Premier ministre qui a provoqué un tollé à gauche et jusque dans son camp en évoquant à la télévision le sentiment de submersion migratoire, selon lui, ressenti par les Français. À l'Assemblée, cela a donné cet échange avec Boris Vallaud qui préside le groupe PS.
Monsieur le Premier ministre, submersion, ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde, un mot qui blesse autant qu'il ment. Choisissez-vous vos mots par hasard ou les avez-vous sciemment empruntés à l'extrême droite dont vous prétendez ne plus jamais vouloir dépendre ? Et que dire de ceux de votre ministre de l'Intérieur ou de votre ministre de la Justice ?
Madame la Présidente, Monsieur le Président Vallaud, le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Quiconque est allé à Mayotte, quiconque à parler avec les habitants de Mayotte, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. Et l'immigration n'est pas la cause des problèmes de la France. Ce sont les problèmes de la France qui sont la cause de ce que l'immigration est désormais une impasse. Parce qu'il n'y a pas d'intégration comme nous le voulons, par le travail, par la langue et par les principes.
Je ne peux être, moi, que consterné, submergé par la consternation de votre réponse. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice.
Je n'ai aucune connivence avec personne, ni avec ceux qui exagèrent les réalités, ni avec ceux qui nient les réalités. Nous sommes engagés au service des Français pour résoudre les problèmes qui se posent, non pas pour les nier, non pas pour les exagérer, mais pour leur apporter des réponses. C'est notre responsabilité de République.
C'était donc à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui encore, il y a des réactions comme celle de Yaël Braun-Pivet, qui appartient au groupe macroniste à l'Assemblée et qui s'est exprimée sur cela.
Ce n'est pas mon vocabulaire. Après, on a la question migratoire qu'il faut regarder en face. Il ne faut pas que des personnes viennent en France en dehors de ces filières-là. Et donc ça, c'est la lutte pied à pied contre l'immigration irrégulière. Et puis, il faut que ceux qui sont venus dans le cadre des filières légales, si ils ne sont plus en situation régulière parce que leur visa est expiré s'ils ont fini leurs études, parce qu'ils n'ont pas eu leur demande d'asile reconnue, eh bien, il faut que ceux-là repartent dans leur pays parce qu'ils n'ont pas vocation à rester ici.
Et puis, Jordan Bardella pousse l'idée d'un référendum face à la submersion. Chiche, semble dire le président du RN. Diriez-vous, Mathieu Gallard, qu'il prend le président de la République au mot, puisque dans ses vœux à la nation, le chef de l'État avait promis de consulter les Français entre les élections.
Oui, mais alors là, avec un petit problème qui est que dans la Constitution, toujours elle, il est stipulé qu'un référendum ne pouvait intervenir que sur des enjeux économiques et sociaux ou sur des enjeux institutionnels. Donc c'est difficile de glisser dans ce cadre-là un référendum sur l'immigration. On avait vu même que l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne sur la réforme des retraites avait été invalidée par le Conseil constitutionnel. Donc il y a cette difficulté. a priori, c'est extrêmement difficile d'organiser un référendum sur l'immigration en France.
Plus largement, vous pensez que le référendum serait de nature à redonner aux Français un peu de confiance dans la politique ?
De confiance dans la politique, je ne sais pas, mais en tout cas, le sentiment, effectivement, de prendre leur vie et les décisions par eux-mêmes. Il y a, effectivement, on est dans des institutions qui, en gros, ne fonctionnent plus aujourd'hui pour tout un tas de raisons différentes. On voit que le mode de scrutin pose problème, mais on voit aussi effectivement qu'il y a de plus en plus le sentiment que les Français veulent ne pas juste déléguer un pouvoir à des élus pendant 5 ans ou pendant une durée donnée, mais prendre des décisions sur des grands sujets eux-mêmes. Et donc le référendum serait une bonne solution, oui.
Emmanuel Macron présidait aujourd'hui la cérémonie pour les 80 ans de la libération de Colmar. Il s'est agi de la dernière grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale sur le sol français. C'était aussi l'une des plus violentes. Le président de la République s'est octroyé un bain de foule, mais n'a pas pris la parole au cours de la cérémonie, où il a passé en revue des troupes françaises et américaines. Alors certains diront qu'il se contente désormais d'animer des commémorations, en retrait depuis la dissolution. On va en parler avec vous dans un instant. Avant cela, avec Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, cette question, si le chef de l'État ne tient plus les manettes de la politique gouvernementale, il n'a pas forcément renoncé à se faire entendre.
C'est exactement ça. Le président cherche comment retrouver un peu d'influence. Après une période durant laquelle il a été forcé de prendre de la distance, son entourage a même théorisé cette posture avec une formule. Le président préside et le gouvernement gouverne. Emmanuel Macron a changé de stratégie. Son objectif est aujourd'hui d'essayer de se rappeler aux bons souvenirs des Français. Et il le fait de manière parfois un peu débridée, allant même jusqu'à critiquer la politique gouvernementale. Par exemple, quand les sportifs français ont protesté contre les coupes budgétaires dans leur secteur, dans une tribune, Emmanuel Macron leur a apporté son soutien. Première pique contre les choix du Premier ministre, suivi quelques jours plus tard par une autre saillie. En déplacement dans le nord de la France, il a défendu sa politique pro-entreprise, qui risque d'être mise à mal par l'augmentation de la fiscalité envisagée pour faire rentrer de l'argent dans les caisses et combler les déficits.
Et on a vu aussi Emmanuel Macron sur TikTok, Valérie.
Oui, dans une vidéo publiée pour répondre à un influenceur qui se plaignait d'avoir été verbalisé pour avoir payé au péage avec son téléphone. Une préoccupation pas très jupitérienne, portée par un président devenu porte-parole des mécontents, sans filtre, peut-être un peu trop connecté. Cet épisode insolite a étonné même dans son camp. Joker a répondu un macroniste de la première heure, sollicité pour réagir sur cette vidéo, qui s'inscrit en fait dans une démarche de rapprochement avec les Français, illustrée encore cette semaine par une visite surprise et sans la presse dans une petite ville de l'Aisne pour aller à la rencontre des habitants autour d'un café. Dans l'entourage du président, on emballe tout ça dans un récit. Emmanuel Macron aurait la volonté de s'occuper de plus en plus du quotidien de ses compatriotes, loin du protocole.
Mathieu Gallard, vous observez l'activité du chef de l'État. Se contente-t-il, comme le veut la formule, d'inaugurer désormais les chrysanthèmes ou est-il toujours pleinement en action ?
Il me semble effectivement qu'il a pris du recul vis-à-vis du fonctionnement au quotidien, on va dire, de l'action gouvernementale, ce qui me paraît être plutôt une bonne chose, en tout cas une décision opportune, parce que je ne suis pas certain effectivement que pour François Bayrou, avoir Emmanuel Macron qui serait un petit peu dans ses jambes au quotidien, dans ses négociations avec les socialistes, ça soit une très bonne chose. Je ne suis pas certain que les socialistes aient envie de faire des cadeaux à Emmanuel Macron. Donc effectivement, il a sans doute pris du champ et c'est plutôt une bonne chose, et plus largement, ça répond là encore à une aspiration assez profonde de l'opinion publique. On voit bien que de toute façon, dans la Ve République, il y a un petit peu cette contradiction entre le fait que le chef de l'État, il doit être quelque part une personnalité un peu au-dessus des partis, qui est censé favoriser une sorte d'union de l'ensemble des Français, mais en même temps, parce qu'il a des pouvoirs extrêmement importants, et ben généralement, c'est lui qui, finalement, gère sa majorité et gère l'action d'une majorité. Là, on est dans une situation où, depuis 2022, il n'y a plus de majorité. Donc, c'est vrai qu'on est censé revenir un peu à une situation plutôt d'un président de la 3e, de la 4e République, qui, justement, voilà, est plus vraiment en contact avec le terrain, mais avec un positionnement beaucoup moins politique, beaucoup moins idéologique et beaucoup plus institutionnel. C'est lui qui, quelque part, symbolise l'union de la nation française. Et évidemment, pour Emmanuel Macron, qui a quand même une image très dégradée, c'est difficile à tenir. Et puis, je ne suis pas certain que c'est comme ça que lui voit véritablement son rôle.
Oui, parce qu'il lui reste quand même 2 ans et demi à faire.
c'est le grand point. Voilà, il est encore président pour 2 ans et demi. A priori, enfin, voilà, on parle beaucoup de démission, mais je pense vraiment qu'on n'en est pas là. Il ne le veut pas, il n'en est pas du tout forcé à ce stade. Donc effectivement, il doit essayer de réinventer un peu ce rôle de président de la République dans un contexte politique, institutionnel, très différent de ce qu'on a connu jusqu'ici sous la Ve République. C'est pas facile, mais quelque part, il y est un peu forcé par les événements.
Merci pour ces analyses et commentaires, Mathieu Galard.
Merci.